parole est à Prof. Toreno pour la conclusion.
Merci Bernard, merci à toutes et tous. Franchement, j'ai passé une journée extraordinaire. Donc ça pourrait être ça ma conclusion finalement. Non, incroyable, parce que parfois dans les journées comme ça, on a une écoute flottante, on est en mode ça m'intéresse, ça je suis pas d'accord, gnagna. Et là, franchement, j'ai tout écouté, j'ai tout noté, j'ai 16 pages de notes, donc incapable de les résumer. J'ai fait une petite enquête rapide, là, c'est pour ça que je demandais une pause, c'est-à-dire c'est quoi pour toi la ligne directrice, etc. Donc j'ai au moins 7 ou 8 versions différentes. Voilà, donc je ne vais pas vous les faire, je vais d'abord évidemment saluer Bernard en premier, Global Chance d'une manière générale. Moi, je suis tombé sur Global Chance au début des années 2000. Je sortais d'un travail sur les lanceurs d'alerte, comme vous savez peut-être, où on avait mis le nucléaire parmi les grands dossiers. Il y avait l'amiante, la vache folle, des choses comme ça. Et c'est vrai que j'étais sidéré quoi, par le niveau de contre-expertise, pour l'appeler vite, hein, mais en tout cas de raisonnement, d'enquête, la générosité qui se manifestait. Et puis du coup, j'ai croisé, en partie d'ailleurs grâce à Ruth et France Culture, enfin ton émission de France Culture, pas tout France Culture, hein, surtout les femmes d'ailleurs qui m'ont invité sur France Culture, j'ai remarqué. Non, c'est vrai. Statistiquement, c'est du genre 90%. Les mecs, c'est mal dominant. Bon. Et aujourd'hui, ce qui était impressionnant, c'est qu'on, pour la première fois, on avait 81,25% de femmes à la table. Alors, on m'a mis à la fin pour essayer de récompenser. Mais non, c'était intéressant, justement, parce qu'on voit bien qu'on a aussi eu un niveau de débat, de discussion, de présentation, avec vraiment une expertise, une compétence assez pointue, un niveau d'intelligibilité partagé, un sens précisément de l'échange. Et ça, je suis assez impressionné, parce que dans nos milieux de chercheurs, bon, je suis quand même directeur d'études à l'École des hautes études depuis un certain temps, donc j'en ai vu, la communication est pas absolument, n'a pas cette fluidité, cette évidence. Alors, peut-être qu'on peut dire, oui, mais en fait, vous êtes tous d'accord ici, hein, sur le fond. Hein, vous êtes tous des anti-nucléaires, des affreux jojo qui voulaient casser la grandeur de la France, etc. Bref. Non, je pense qu'il y a j'ai entendu des choses assez différentes. J'ai bien aimé voir surgir, parce que j'avais mis, moi, dans les trucs a priori, les questions des travailleurs, justement, de l'interne. Parce qu'au fond, ces dernières années, il y a eu un renouveau des travaux universitaires sur le nucléaire. Il y a eu pas mal de thèses qui ont été soutenues ces dernières années, qui ont essayé d'aller plus dans l'interne, hein, dans la question du design des réacteurs, des instituts de sûreté. Bon, ça ne se passe pas toujours très bien, mais etc. Il y a eu pas mal de choses. J'ai eu la chance de diriger, c'est un grand mot en tout cas, d'accompagner la thèse de Martin sur les futurs du nucléaire, qui est une thèse qui a été au fond sur pas mal de choses. Donc il y a un renouveau, mais c'est vrai qu'on voit bien que les accès au terrain... Le contact, même nous chercheurs, avec les travailleurs du nucléaire, reste quand même quelque chose de compliqué, difficile. Donc toutes les questions qui ont surgi là, à mon avis, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre au travail. Alors, ce n'est pas forcément par les syndicats, moi je rentrerai, on peut trouver d'autres. Marie-Guy, c'est parti, mais elle a vu aussi les difficultés, hein, d'entrer uniquement par des moments de crise, entre guillemets, hein, puisqu'elle est sur la Hague et sur la centrale de. C'était laquelle Belleville. Non, c'était sur la Loire. Enfin, l'UEL n'est pas sur la Loire. J'ai quand même une meilleure géographie que Chinon, voilà. C'est vrai. Sur des questions de conditions de travail. Et du coup, il y a quelque chose qui se joue là, qui est central, à mon avis, dans les dernières réflexions. Mais je voudrais remonter un peu. Au fond, un des thèmes transversaux quand même qui s'est imposé, c'est quand même la relation entre climat et nucléaire. On voit bien que c'est... c'est central et que ça a créé un malaise. Alors moi, j'avais fait un article en 2011 dans une revue qui s'appelle A Contrario, qui est une revue plutôt de linguistes, en fait. Et j'avais analysé un énorme corpus pour essayer de comprendre comment les antinucléaires avaient ramé pour trouver des arguments contre, justement, cette climatisation du nucléaire que les nucléocrates portaient... depuis le protocole de Kyoto en particulier, parce qu'effectivement, ça leur avait ouvert un espace. Et j'avais longuement interviewé Benjamin à ce moment-là. Et je m'étais fait agresser par le réseau Action Climat, qui avait vu ce texte, parce que je donnais trop de place à Benjamin par rapport à la réponse, qui en fait était assez nulle. Il y avait eu un débat organisé par je ne sais pas qui. On voyait Benjamin dans une vidéo qui démontait en fait c'était avant Fukushima, hein, il n'y avait pas besoin de Fukushima, qui démontait complètement l'argument, mais il reconnaissait lui-même que ça avait été un travail, parce qu'au fond, sur le coup, c'était assez difficile de contrer. Donc il y avait plein d'arguments qui étaient venus évidemment d'événements extrêmes, un grand incendie en Russie à un moment donné qui s'approche d'un centre nucléaire, la tempête de 99 et la centrale du Blayais qui a fait glouglou, et depuis, je vous signale quand même que le milieu viticole, on n'a pas affaire à des saints et des gens absolument fréquentables non plus, parce que j'ai beaucoup travaillé aussi sur les pesticides dans la vigne, bon, voilà, mais qui ont dit maintenant vous arrêtez EDF, on ne veut plus entendre parler de vos trucs, hein, parce que Greenpeace, qui est un parti représenté ici, avait réussi ce coup extraordinaire qui a même touché Alain Juppé, qui est à Bordeaux, qui consistait à dire on vous fait une campagne en disant du plutonium dans le pinard, vous allez voir. Je vous rappelle que Tricastin a quand même, les coteaux de Tricastin se sont désappelés, de certaine manière, suite à l'incident de 2008, où il y avait du tritium ou je ne sais plus quoi dans la nappe phréatique. Donc il y a une vulnérabilité qui n'est pas simplement de l'interne, mais aussi dans tous les milieux environnants. Et c'est assez impressionnant comment cette question climatique, en fait, maintenant, au début, c'était vraiment un argument en défense du nucléaire, mais en fait, plus le temps passe, et plus au fond, elle rogne. Alors il y a évidemment les risques de submersion. Je vous rappelle qu'à Gravelines, c'est quand même une centrale avec 6 réacteurs, hein. On monte les digues, alors qu'en face, à Sizewell, alors ils n'ont pas passé de contrat encore avec EDF, mais en fait c'est EDF qui fait tourner leurs deux réacteurs à Sizewell, qui est donc en face de Gravelines quasiment. Et on y est allé, on a fait du terrain là, et en fait le trait de côte recule tous les ans entre 30 et 50 cm. Et on a même un gars qui est spécialiste de ça, qui s'arrache les cheveux, il ne comprend pas comment on peut faire un troisième réacteur là, c'est vraiment, ça sera sur un pôle d'air forcément. Hein. Et en fait, là, il nous montre, j'ai une vidéo, il fait tomber la roche carrément comme ça en direct, en disant « ils sont fous ». Et c'est vrai qu'on a cette tension qui a traversé toute la journée entre quand même des évidences qui devraient être partagées, qui sont de plus en plus tangibles, à la fois venant de la science, venant de la critique, venant des observations, des événements, de tout ce qui se passe. Et de l'autre, un milieu piloté visiblement par des réseaux industriels extrêmement, qui restent encore puissants, qui fonctionnent au déni, à la com, etc. Donc on a ce détail. Donc moi, c'est une question qui reste ouverte. Quand on a une telle puissance argumentative, d'enquête, de raisonnement, quand on voit bien qu'on est capable quand même de rentrer dans les dossiers techniques, qu'on se saisit d'un certain nombre de choses, l'aval à l'amont, en circulant à toutes les échelles, pourquoi aussi peu de puissance d'expression? Alors, on a été rassurés, puisque le mouvement nucléaire renaît, les graines renaissent, et on a eu une petite discussion informelle. Je me permets de rebondir un peu dessus. Oui, il se passe plein de choses sur le terrain, à Bure, mais partout ailleurs. Le seul souci, c'est que du côté des institutions, par contre, là, il y a vraiment des mourons à se faire. C'est qu'on a l'impression qu'on a perdu la bataille. Les batailles sont perdues dans beaucoup d'endroits, dès qu'on monte en échelle. Et c'est ce paradoxe auquel on assiste, qu'au fond, on voit plein d'initiatives, alors citoyennes, portées par les ONG, des fédérations, bon, le soulèvement de la Terre, c'est un peu le dernier truc, etc., mais où les gens sont capables de travailler ensemble, de passer au-delà des frontières entre les appareils, etc. Mais dès qu'on monte en échelle, on a le sentiment que là, il y a quelque chose qui se défait, une perte de prise collective, et... là, je trouve qu'il y a un travail à faire. Donc, pour moi, la conclusion, elle est simple. C'est qu'on a bien discuté, on a bien fait circuler les idées. Il existe un lieu extraordinaire qui est donc Global Chance, avec tout son savoir-faire, son réseau, etc. Et il faut créer des groupes de travail et se mettre au boulot, que ce soit pour éclairer les citoyens qui ont des questions sur des problématiques, par exemple autour de Golfech, il y a des riverains qui ont porté des choses en justice, que ce soit autour des piscines, dites piscines, le terme d'ailleurs piscine est quand même... il faut pas travailler aussi sur ces aspects-là. Regardez ce qui se passe dans la fusion IRSN-ASN. Je sais que Christine, qui a une autre vision de l'IRSN, forcément, regarde ça avec une certaine... inquiétude, comment tout à coup un organisme qui quand même peut aussi avoir posé des problèmes se retrouve du bon côté. Donc ça, il y a des circulations. Être capable de mettre ça au travail, de le partager, si Global Chance nous ouvre, moi j'ai eu la chance de publier un article. À l'époque, j'avais été invité par Politis et Global Chance pour répondre à une question qui était un piège évident. les climato-sceptiques sont-ils des lanceurs d'alerte? Vous le trouverez puisqu'il est dans la série. Et évidemment, là, c'était une question rhétorique. Mais il fallait argumenter quand même. Hein. Il fallait arriver à trouver. C'était à l'époque de Copenhague. Hein. C'était 2009-2010. Et là, effectivement, les climatologues du GIEC commençaient à flipper. Quoi. C'est en disant, on s'est vraiment complètement planté. Et donc, il y a vraiment moyen de se mettre au travail et de partager. C'est comme ça. Bon, j'avais plein d'idées sur plein de trucs, mais je ne veux pas vous saouler. On a déjà passé plein de trucs. Qu'est-ce que je pourrais sortir qui serait vraiment... Oui, si, quand même, sur démocratie technique. J'ai bien aimé le topo un peu optimiste sur le fait que ça progressait. J'ai fait pendant 20 ans un séminaire avec Jean-Michel Fourniaud. Jean-Michel Fourniaud étant un des créateurs du GIS Démocratie et Participation, donc il porte, avec Loïc Blondiot et bien d'autres, cette idée de démocratie participative, etc. Et dans le séminaire, j'étais toujours le gars qui disait « ouais, bof ». Et c'est 20 ans de discussion. Cézine a beaucoup travaillé sur ces questions-là aussi. Bon, on s'est un peu accroché parfois avec Dominique Pestre, parce que lui, il avait une version carrément opposée. En gros, les technosciences font ce qu'elles veulent, etc. J'ai dit pas toujours. Sur les OGM, par exemple, il y a quand même eu des points d'arrêt. Sur d'autres sujets, bon, Notre-Dame-des-Landes a été citée. Bon, voilà. Il y a des moments où le rapport de force n'est pas forcément toujours du même côté. Donc ça, c'est important aussi d'avoir une casuistique, de la partager. On a beaucoup circulé, hein, et ça, c'est vachement bien aussi de déconfiner le nucléaire. Parce qu'au fond, un des grands problèmes de cette industrie qu'on rencontre, évidemment, nous, chercheurs pour le terrain, moi, j'ai beaucoup tourné autour, j'ai juste fait une ergonomie cognitive dans les années 90, et j'avais réussi à m'infiltrer dans les centrales, dans les salles de commande, c'est une expérience que j'oublierai jamais. Premier jour d'enquête, on avait des badges, on avait passé un tas de trucs, etc. On se retrouve dans les bâtiments où il y avait de la flotte partout, c'était vraiment Stalker, hein, le truc. Et on entend une voix qui nous dit, Monsieur Château-Renaud, Monsieur Conin, parce que c'était mon collègue qui était avec moi, vous n'avez rien à faire dans cette salle. Et on n'avait pas qu'on était arrivé là, on avait simplement passé des badges dans un machin, et en fait c'était les opérateurs du nucléaire qui nous avaient testés et mis à l'épreuve, c'était le bizutage en fait, pour nous envoyer dans une zone et nous faire flipper un bon coup, alors que dans la centrale, dans le salle de commande, évidemment, c'était relax, on ne voyait plus tout ça, quoi. On était vraiment dans un truc cosy presque, il y avait effectivement des alarmes, des machins, mais en gros... Et donc, pénétrer à l'intérieur, c'est vraiment un enjeu. Comment déconfiner? Alors, c'est vrai qu'il y a eu l'affaire Hugo et Tricastin. Je pense que ça en est... Normalement, c'est au pénal, c'est ça. Est-ce qu'on peut faire confiance à la justice? Je m'adresse aux juristes, mais sur ces questions-là, pour faire avancer le dossier, je pense qu'il y a des questions à se poser.
C'est parmi les sujets sur lesquels on peut le moins faire confiance, voilà, à la justice.
Bon, mais écoute. Voilà, la conclusion est faite. Moi, je pense qu'il y a vraiment... ce que j'avais mis, c'est qu'au fond, il y a 7 ou 8 appui, prise, appelez ça comme vous voulez. Il faut une contre-expertise forte et qu'elle soit produite le plus en amont possible. Il ne faut pas une contre-expertise qui vienne répondre à quelque chose qui a déjà été produit. On l'a vu, les problèmes de framing, de cadrage, quand le problème a déjà été défini, on est prisonnier des jeux de langage. Il faut un travail juridique et judiciaire. Même s'il est pénible, il y a quand même des associations qui ont obtenu des choses plutôt sur l'externe, sur des nappes phréatiques, sur des pollutions, etc. Il faut des mobilisations sur des terrains de lutte, on l'a vu, c'est bon, on a des exemples. Bure étant effectivement aussi un laboratoire de lutte. Il faut évidemment, je pense, participer quand même au débat, ne serait-ce que pour y mettre le souk quand il faut, ou parfois pour faire surgir des paroles qui étaient inattendues, des points de vue qui étaient... et puis entendre aussi ce qui se dit, etc. Il y a pas mal de travaux qui montrent au fond qu'une partie des citoyens vont au débat public sur un mode ironique. Ils n'y croient pas, en fait. Et ils passent leur temps à ricaner pendant les présentations, les discussions, etc. Parce qu'ils voient bien qu'ils ne sont pas aussi idiots que le voudraient, en fait, ce que vous appelez les oligarques nucléocrates. Ils sont quand même beaucoup plus malins que ça. Donc on a quand même des lieux où des choses peuvent se dire. Moi, je me rappelle du débat sur l'EPR en 2005, ou l'affaire du secret défense, où moi-même j'ai fait du recel, puisque j'avais les documents que m'avait envoyé le réseau sur Terre du nucléaire, qui était supposé être secret défense, où il y a quand même, je crois que c'est Stéphane Lhomme qui a fait de la garde à vue pour ce truc-là, hein. c'est pas rien. Hein. Et il y avait eu arrêt du débat, parce que c'était une violation de secret défense, et donc il a fallu créer une commission d'experts qui lise les documents que tout le monde avait déjà vus. Enfin, c'était, voilà. Donc, mais c'est drôle, parce que ça crée des précédents et des appuis pour justement porter la critique et améliorer les méthodes dans certains cas, ou en tout cas pouvoir dénoncer sur la base d'une expérience. Évidemment, développer des relations avec tous les acteurs internes, par la médecine, les médecins du travail, certains l'ont fait, par les réseaux d'acteurs qui sont liés. Moi, il se trouve que le hasard a fait que j'avais une belle sœur qui était dans le nucléaire. D'ailleurs, je crois d'ailleurs que Martin l'avait interviewée. Maintenant, elle est prof de musique. Un jour, elle m'a dit, j'en avais marre de mentir. Elle était quand même ingénieure sûreté, hein, ça fait peur. Alors ça, c'est intéressant. EDF n'est pas à l'aise avec ça. Les gens, dans leur milieu proche, évidemment, de quoi ils parlent. Et là, il faut arriver à faire lever des tabous, quoi, à faire déplacer un petit peu la parole. Il y a plein, de possibilités d'entrer. Hein. Alors, faut se mettre dans la peau d'une souris, quoi, qui arrive toujours à trouver un trou. On a beau essayer de tout blinder, elles arrivent à entrer. Et je pense qu'il y a des choses à expérimenter. Évidemment, il y a la question de l'échelle internationale, on en a beaucoup parlé. Là, on se sent totalement impuissant par moment, mais moi, je suis admiratif du travail qui est fait de tracer comme ça les acteurs. Il y a des techniques d'enquête, il y a du partage de données. Alors, vous voyez que ça peut mal se tourner quand on met des journalistes en garde à vue pour, etc. Sur le secret des sources, aujourd'hui, on s'est beaucoup battu hein, en défendant les différentes lois sur les lanceurs d'alerte pour faire en sorte que, justement, il y ait une protection de ce genre de trucs. Et on voit bien que ça, c'est pas suffisant. Il faut continuer le combat. Mais en tout cas, essayer de comprendre la géopolitique dans laquelle on est, ça c'est vraiment central, puisqu'on voit que les variations d'échelle sont considérables. On change d'échelle à une vitesse sur ce dossier nucléaire qui est impressionnante. Et puis, évidemment, développer un maximum d'alternatives, c'est-à-dire réinventer des moulins, trouver des moyens de faire de l'énergie par tous les bords et accompagner les initiatives citoyennes qui sont quand même assez mal vues et qui posent pas mal de problèmes au pouvoir. Aux différents pouvoirs, que ce soit les grandes entreprises ou l'État, mais il y a quand même pas mal de gens qui essayent de développer des réseaux énergétiques participatifs, citoyens, on les appelle comme on veut, et reprendre prise dans le local. C'était un grand mot d'ordre des mouvements altermondialistes. Hein. Là, on a pensé local aujourd'hui, mais enfin, en tout cas, il faut localement que les acteurs puissent se réinstaller. Et c'est vrai qu'autour des centrales nucléaires ou des installations, puisqu'il ne faut pas oublier justement toutes ces infrastructures, il y a des choses à faire. Et là, je trouvais. Et bon, pour finir, je dirais qu'il y a une responsabilité. On a parlé de Jean Covici, évidemment, personnage que je suis comme tout le monde, et étant en plus féru, en tout cas, j'aime beaucoup les analyses argumentatives et rhétoriques. Donc j'ai un peu pigé comment il fonctionnait. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que les collapsos, enfin, la prose collapso, a marqué un point. Et moi, j'étais un des premiers à dire attention, danger, Servigne et compagnie. C'est-à-dire que là, c'est un truc qui va produire des trous configurationnels dans la manière de penser les problèmes d'environnement. Évidemment, en annonçant la catastrophe et l'effondrement, ça crée un état de panique. Et des acteurs qui n'ont pas tout ce background qui est ici visible et présent, évidemment, sont un peu tombés dans le panneau. Quand on discute avec Servigne ou quand on le voit off, c'est vraiment du genre « ouais non, mais enfin c'est un exercice intellectuel, etc. » Donc il y a un double jeu qui a produit des effets. Et je trouve que là, il y a vraiment un travail à faire de remise à distance. Alors, on avait déjà eu cette discussion avec Jean-Pierre Dupuis sur le catastrophisme éclairé. Bon, Jean-Pierre, c'est pas facile. Hein. Enfin bon, je pense que là, il y a quelque chose. Il faut vraiment arriver à sortir du catastrophisme pour le déplacer d'une certaine manière. C'est un peu de l'aïkido, c'est-à-dire que là, on a quelque chose qui est maintenant acquis, une certaine puissance, il faut pouvoir esquiver sans, en restant dans le mouvement. Et là, c'est assez compliqué, parce qu'effectivement, si on veut s'en sortir, on a soit le technoprogressisme, soit, on va jusqu'au transhumanisme et Elon Musk et compagnie, hein, on peut y aller, allons-y, il y aura toujours des solutions technologiques. Le nucléaire, effectivement, est une vieille solution, on l'a compris, mais enfin, elle permet, c'est donc une énergie de transition, hein, si j'ai bien compris, voilà, pour l'Europe. Et là, vraiment, il y a un truc à faire par rapport à ces grandes matrices discursives. On a parlé de récits, moi je parlais plus de matrices discursives, ce qui fait que les acteurs ne sortent plus, au fond, d'une espèce d'organisation mentale, cognitive, qu'il faut éviter d'implanter dans les expériences pratiques. Il faut laisser du jeu. Et c'est d'ailleurs à cette condition-là qu'on pourra rediscuter avec des travailleurs, des syndicalistes ou des gens qui sont en interne. C'est en réouvrant les possibles. Parce qu'évidemment, si vous arrivez en disant de toute façon c'est foutu, c'est la catastrophe, vous allez vous recevoir des contres, etc. J'ai fait un bouquin qui s'appelle « Argumenter dans un champ de force ». Au début, personne n'a compris le titre. Quand on porte une cause, qu'on pense qu'elle est bonne, ben, en général, on découvre qu'il y a des forces qui s'y opposent. Et on est souvent déçus en disant c'est pas possible, ils sont de mauvaise foi, ils sont. Non, mais on a affaire à des puissances d'agir. Et je crois qu'il faut reconstruire nos prises et nos techniques de combat, hein, pour le dire ouvertement. Et voilà, j'avais donc cornucopien, dehors. Enfin, il faut trouver des mots d'or comme ça. Et vraiment, merci encore une fois. Et j'espère que nous allons sortir de ces 30 ans de malchance locale ou globale pour retrouver les 30 ans de globale chance qui étaient annoncés donc il y a longtemps et réouvrir les futurs, réouvrir l'avenir. Et bon courage. On va essayer déjà de tenir jusqu'en 2027.